Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Troisième partie, page 83b à 89. En écoutant ce pasteur, qui ne prétendait à aucune distinction que celle d'aimer ses frères, Jean-Jacques et Thérèse ressentirent l'impression d'avoir perdu du temps jusqu'à ce jour. Cet homme était l'incarnation du personnage décrit par Hans Falada, un vrai père spirituel, qui priait avec eux quand on le lui demandait, et qui sinon était seulement le frère des hommes. Hans Falada, seul dans Berlin, Gallimard, Folio, page 648, 2014. Quant à leurs filles, elles avaient traîné des pieds pour venir à ce camp de vacances. La décision qu'avaient prise leurs parents de se rendre à Anduze annonçait la perspective d'un été gâché. Au dernier jour de vacances, à l'heure du retour, aucune d'elles ne voulait repartir. À Nantes, elles rejoignirent l'église de la mission qui se trouvait à Cholet. Elles ne rateraient désormais aucun des camps de vacances. Thérèse et Jean-Jacques regagnèrent l'église baptiste quelque temps avant de se décider à parcourir tous les dimanches les 64 kilomètres qui les séparaient de Cholet. Et parfois, dans la semaine, ils se rendaient aux réunions. Comme ce soir-là où Jean-Jacques conduisait la voiture pendant que Thérèse pensait qu'il ne servait à rien d'y aller. Une voix off lui disait qu'elle n'était pas aimée, qu'elle se retrouverait seule comme d'habitude. « Tu verras, » se disait-elle, « après la réunion, tout le monde sera en petit groupe, te laissant seule sur ta chaise. » Arrivés à l'église, Thérèse suivait Jean-Jacques en lui tenant la main. Il la conduisit vers un banc où tous deux s'assirent au milieu de l'assemblée. Durant la réunion, elle ne pensait plus qu'aux nombreux sujets pour lesquels elle joignait sa prière aux autres. Et puis, quand tout fut terminé, tous se levèrent et discutèrent ici ou là en petits groupes, laissant Thérèse et Jean-Jacques seuls sur un banc au milieu de l'église. De loin parvenait à Thérèse le bruit confus des conversations. Elle voulait partir, le plus vite possible, fuir et pleurer. Elle repensait ces instants en boucle durant trois nuits sans sommeil, à se dire que c'était arrivé comme elle l'avait prévu, que son existence se heurtait toujours aux mêmes écueils. Ces nuits résonnaient du bruit déchirant de l'indifférence. Puis trois jours de lutte, trois jours à chercher une raison pour revenir dans cette église où rien pour elle n'avait changé. Au bout de trois jours, il fallait qu'elle en parle. Avec le pasteur, ils ont prié. Elle avait lutté pendant trois jours et trois nuits de tourments, jusqu'à se rendre compte qu'elle donnait raison à sa solitude, à son sentiment de rejet. Elle découvrit que l'orgueil se liait à son handicap. Pour cette raison, le manque d'égard ou les maladresses à son encontre la blessaient. Avec l'aide de son pasteur, ce sentiment fut mis à jour. Elle s'en libéra en fuyant ces entraves qui l'enchaînaient sur d'antiques blessures. Thérèse n'attendait personne ce jour-là. Elle se leva en tâtonnant les murs jusqu'à la porte qui donnait sur le hall de l'immeuble. Elle ne connaissait pas cette femme à qui elle ouvre et qui venait de sonner. Mais celle-ci explique être l'une des cinq enfants qui sont nés après le départ de Thérèse. Et cette femme qu'elle accueille lui raconte avoir lu à leur mère la lettre que Thérèse avait envoyée. Parce que la vieille dame ne déchiffrait les mots qu'avec difficulté. Elle ajoute qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'elle se rencontre. Thérèse a fait le déplacement tenaillée par l'appréhension, parce qu'elle ne la connaissait pas. On les a laissées ensemble l'une en face de l'autre, seules en tête à tête. Par quel bout commencer? Elles ne surent que faire de ce silence qui les séparait depuis tant d'années. Un silence encombrant, alors qu'elles se frôlaient presque. Elles échangèrent quelques mots pour meubler ce vide. En l'écoutant parler, avec ses intonations campagnardes et sa voix usée, son vocabulaire pauvre, entrecoupé de patois, elle prit conscience d'entendre à quoi ressemblait la voix de sa propre mère. Mais la sonorité un peu rauque de cette personne âgée, son timbre éraillé, n'évoquait rien de chaleureux, de familier. Le silence, finalement plus éloquent que l'inconsistance des propos, lui rappelait de leur histoire commune le départ d'une course perdue d'avance, cette femme, pour qui elle n'éprouvait qu'un singulier détachement, continuait à lui être étrangère. Cette infructueuse rencontre ne débouchait sur rien d'autre que Thérèse ne connaissait déjà, ni surprise, ni nouveauté quant à l'inexistence d'un lien affectif qui l'attache à cette femme. Thérèse avait acquis la sagesse de ne s'emballer d'aucun de ces enthousiasmes vains dont l'épaisseur de verre se brise au moindre choc. Aucune déception après le retrouvaille. Il ne subsistait de cette rencontre inachevée qu'une frustration. Rien n'avait été dit. Et si Thérèse s'en accommodait, ce poids pesait pour sa mère qui, sans tarder, frappa à sa porte. Elle avait beaucoup à lui révéler de son existence qu'une misère sociale avait cruellement disloquée, comme les restes d'un repas dans la gueule d'un chien. Elle lui raconte avoir échappé de peu à l'assistance publique ou voulait l'abandonner sa propre mère. Sa grand-mère, s'opposant à cet abandon, la sauva de justesse et prit soin d'elle. Et la petite fille ne fréquenta l'école que peu de temps. La vieille dame tombée malade avait besoin d'être soignée. Du haut de ses 10 ans, elle rassembla tout ce qu'elle possédait de courage et de volonté pour entretenir la maison, préparer les repas, laver le linge, apporter les médicaments et passer le reste du temps au chevet de la mourante. Un matin, les yeux vitreux de la vieille dame restèrent grands ouverts. La petite fille fut placée dans une ferme, où elle apprit beaucoup de la femme qui s'occupait d'elle, une fermière attentive qui lui offrit de quoi grandir, heureuse. L'assistance publique, pour d'obscures raisons, l'envoya ailleurs dans une autre ferme où elle rencontra un garçon. Elle se retrouva enceinte, ils s'aimaient, se promettaient l'un à l'autre. Le ventre rond, elle attendait qu'il finisse son service militaire, quand sa mère biologique ressurgit dans son histoire. Au prétexte que le garçon n'avait pas d'argent, elle s'opposa au mariage. Mais des pauvres, il y en avait tant, et la misère régnait. La jeune femme accoucha d'une fille dans une écurie, seule. Et plus tard, elle mit au monde un autre enfant, Thérèse, qui ne connut pas non plus son père. Un pont était jeté, une relation débutée entre ces femmes, plus authentique qu'elle ne le fut au début chaotique de leur rencontre. Mais Thérèse ne l'appellera jamais maman. Le mot se coinçait dans sa gorge, un mot trop intime qui évoque des liens faits de souvenirs communs, de tendresse partagée, de baisers et de larmes. Thérèse éloigna d'un cran le degré de parenté pour appeler grand-mère cette femme qu'elle conduisit à l'église. « Nous avons la maman de Thérèse parmi nous », déclara le pasteur en début de culte. Touché par ces mots, par les prédications, par l'attitude de sa fille, elle confia à Thérèse cette impression de voler aussi légère qu'un oiseau. Elle ne voulait plus, selon ses propres mots, le diable chez elle, en désignant par là les icônes, les petites statuettes en plâtre représentant des saints, ou les images pieuses qu'elle possédait chez elle. Thérèse et Jean-Jacques lui ont offert une Bible, bien qu'elle ne sache qu'à peine lire. Pourtant, ces conversations faisaient désormais référence à des propos bibliques. Cette Bible, elle la lisait avec ses propres moyens, mais ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Un livre qu'elle camouflait par prudence dès qu'elle rencontrait une personne de son village. La dernière fois qu'elle était venue chez Thérèse et Jean-Jacques, elle avait insisté pour se faire raccompagner chez elle. Dans sa maison, elle alluma un feu et demanda à Jean-Jacques d'enlever les photos du pape, les statuettes et toutes les images des saints. Puis elle les jeta au feu. « Je veux plus le diable chez moi maintenant, c'est fini !» La demi-sœur de Thérèse mit fin à leur relation en les accusant d'avoir profité d'une personne vulnérable. Contre l'avis de sa mère, Yvette s'opposa à ce que Thérèse la rencontre à nouveau. Thérèse et sa fille Rachel sont allées la voir longtemps après ces événements, dans la maison de retraite où la mère de Thérèse finissait ses jours. Elles ont parlé de choses anodines. Trop de personnes les entouraient pour aborder des sujets personnels. Mais elle disait à Thérèse cette foi qui désormais l'animait. « Tu vois, quand je plante un chou dans le jardin, eh bien, Christ est avec moi. » Elle ajouta avoir jeté dans les flammes son chapelet, comme elle l'avait fait de tout le reste. Elle brûla tout.